Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Duplantier. Bonjour Martin.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la base, mais pas seulement, et on en reparlera sûrement. À la tête de votre agence, fondée en 2008. Votre agence porte votre nom et regroupe aussi les compétences en paysage et urbanisme. Vous êtes de même associé dans une autre entité, l'agence Debar Duplantier, avec un S associé, de même créée en 2008. Alors on va commencer par une question insolite sur le goût de l'architecte, mais pas le goût esthétique, en tout cas tel qu'on on l'attend. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Un souvenir gustatif?
Ah, alors évidemment que j'aime les plaisirs de la table et j'aime aussi joindre l'architecture avec ces plaisirs-là, avec les plaisirs de se retrouver, d'échanger. C'est vrai que l'art de la table à la française, c'est quelque chose de bien particulier, qu'on essaye d'ailleurs de partager avec nos amis ukrainiens, avec un projet qui va être tourné autour de cette culture gastronomique et gustative. Alors moi, à chaque fois que je vais en Ukraine, le premier plat que je prends, et c'est ce souvenir-là peut-être gustatif qui vient me chatouiller l'esprit, c'est le borsch ukrainien. Premier plat, j'arrive en Ukraine, je commande un borsch.
Et alors, c'est à base de ?
Alors un borsch, c'est à base de beaucoup de légumes, divers et variés, d'aneth, mais aussi de viande, et tout cela est cuit pendant de nombreuses heures, et les baboussias, les grands-mères ukrainiennes ont le secret, chacune un petit peu différent, de leur propre recette, et en sont bien économes de nous donner les secrets de leur préparation.
Alors, en effet, nous communiquons depuis plusieurs mois, depuis que nous avons reçu ici au micro Nicolas Zizel de Cause, et lequel nous a vivement conseillé de vous recevoir au micro. À ce moment-là, il revenait très ému d'un workshop avec des étudiants ukrainiens qui avait eu lieu avec vous aussi. Et alors, si vous le souhaitez, nous évoquerons en dernière partie de podcast cet engagement que vous avez pour l'Ukraine et peut-être une manière de ramener l'esprit de paix à travers les phénomènes de construction-déconstruction et de rappeler aussi les notions patrimoniales que toute guerre met terriblement à mal en dehors des pertes humaines. Et puisque la guerre aujourd'hui est juste une sidération pour nous, Européens, mais on va y revenir. Et il y a tant d'autres voies pour se faire entendre. Évidemment, avec votre emploi du temps chargé, il a été bien difficile de vous faire venir au micro. Vous verrez ici, on respecte les oreilles de nos auditeurs et nous regroupons les compétences pour faire de Comme d'Archi le podcast français certifié hashtag 1 dans le domaine de l'architecture. Alors merci à tous les auditeurs qui le permettent et pour leur fidélité, j'en profite. On va commencer par le début. Je souhaite toujours interroger le désir d'architecture. D'où ça vient cette passion? Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, donc? Et quelles ont été vos études? Alors, mon petit doigt m'a dit que vous aviez des parents architectes ou un père architecte.
Exactement.
Une famille.
Je suis né dans les calques et dans les rotrings de mes parents qui passaient beaucoup trop de temps à l'agence. et on piaffait d'impatience de s'enfuir, de partir en week-end. Mais souvent, on était cloîtrés dans ces murs d'agence. Donc ça vient évidemment de là, de cette culture familiale, d'observer la ville, de la dessiner, de la redessiner, de partir en vacances à la recherche de bâtiments insolites, une architecture différente, des cultures habitantes, voilà. Donc tout ça, ça façonne, ça vous façonne le regard. Et même quand on essaye, eh bien, d'en sortir, elle revient, cette envie, au galop. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mm-hmm. C'est que j'étais certain de ne pas vouloir faire ce que mes parents faisaient jusqu'à ce que je rentre en prépa HEC. Et puis, 6 mois plus tard, ben, j'ai fait mon coming out, comment dire, architectural, et j'ai tout fait pour pouvoir y revenir. Donc mes parents ont été assez intelligents pour me dire qu'il fallait quand même continuer cette voie que j'avais initiée, et donc c'est pour ça que j'ai fait HEC. Enfin, j'ai fini par faire cette prépa, puis j'ai été reçu à HEC, et donc j'ai essayé de faire les deux en même temps. Bon, c'était un peu compliqué, donc j'ai fini HEC, j'ai fait mon année de césure quand même dans l'architecture de terre, notamment en Afrique, puis à Berlin, et après j'ai enchaîné sur une école d'architecture. Et avant cela, bah, j'ai grandi, moi, dans le sud-ouest de la France, essentiellement. Je suis né à Bayonne, j'ai grandi dans... Mes parents étaient un peu hippies, donc d'abord dans une ferme, et puis après en ville. Et à 15 ans, à Bordeaux, j'avais besoin d'air, et donc je suis parti faire mon lycée aux États-Unis, en Californie, dans une famille américaine qui m'a appris d'autres choses et dans une autre culture, et ça m'a donné confiance en moi, je pense. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses, la manière dont on voit aussi l'histoire européenne, la ville européenne, tout ce qu'il n'y a pas en fait aux États-Unis. Et ce déplacement, ben, je pense qu'il est fondateur dans le regard d'un
jeune,
exactement, d'un adolescent, sur la manière dont, encore une fois, on observe et puis on peut permettre de créer après.
À ce moment-là, vous aviez une perception des échelles, parce que la Californie, c'est, enfin d'ailleurs, les paysages aux États-Unis ont une dimension qui est quand même différente de la nôtre.
Oui, bien sûr, les échelles, la mobilité, on est tout le temps en voiture, qu'on aille à l'école, ou qu'on aille dans le centre-ville, entre guillemets, qui est le downtown à San Francisco, tout ça, c'est des choses qui sont très très différentes de la vie à l'européenne, ouais, dont le paysage se dessine, dont aussi la répétitivité, ou le côté générique des villes. On a du mal à se repérer, parfois, parce qu'on voit les mêmes surfaces commerciales, les mêmes alignements d'arbres, les mêmes marques.
Pourtant, San Francisco, c'est... pour le coup, très singulier.
C'est peut-être une des seules villes à l'européenne aux États-Unis, mais dès qu'on est en dehors de ces noyaux, on est dans une ville très générique. C'est aussi quelque chose qui n'existait pas, alors qui existe peut-être un peu plus maintenant, mais qui n'existait finalement qu'assez peu chez nous.
Vous êtes après rentré.
Voilà.
Vos études, votre double cursus, bravo, parce que c'est pas évident.
Ouais,
je pense que le HEC vous a beaucoup aidé sur la notion entrepreneuriale. J'imagine.
Bah, HEC,
pas tant que ça.
En fait, HEC, c'est une excellente école qui n'est pas que sur des matières classiques, finance, marketing, etc. C'est aussi une école qui ouvre sur tout un tas de choses et qui permet de se rendre compte qu'on ne sait pas tout et qu'il faut s'entourer des meilleurs pour arriver à destination. Donc, ça vous donne une conscience, en tout cas, de cela, de vos propres limites et à la fois d'une ambition qui peut être sans limite, parce que justement vous avez les moyens de pouvoir faire équipe et d'échouer aussi, mais d'atteindre un certain but, une certaine ambition. Donc ça, c'est vrai que ça a été très, je pense, très porteur. Après, c'est aussi dans le regard des autres, hein. C'est-à-dire que ce que ça vous apporte, c'est que finalement les gens se disent, ah bah tiens, il a fait HEC, peut-être que...
Il a les pieds sur terre.
Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'il peut nous comprendre, nous, je sais pas, maître d'ouvrage, privé, public, etc. Et donc c'est vrai que cette double formation, ou cette même triple formation, parce qu'après j'ai terminé par un cursus en urbanisme, ben c'est toujours voir la fabrique de la ville, mais de manière décalée, différente. Je pense que c'est de toute façon comme ça qu'elle se fait, hein. C'est pas...
Oui, donc là vous êtes en train de parler de... La notion de financement,
de financement, de faisabilité, de mais aussi de maintenance, d'exploitation, de finalement de toute l'équipe qui fait qu'une ville tourne, hein, et donc elle est collective, cette équipe et ce tour de table. Et quand on est amené à diriger des entreprises comme le font la majorité de mes camarades d'HEC, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi avoir autour de la table différents points de vue financiers, je sais pas, ressources humaines, opérationnelles, etc. Donc
vous êtes rentré à l'école d'architecture.
Mm-hmm.
Là, vous y êtes épanoui.
Tout à fait.
Quand vous sortiez, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai été pris en école d'architecture à Paris-Malaquais. J'ai fait une année à Barcelone, beaucoup plus axée sur la construction, sur l'urbanisme. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup apprécié l'école espagnole ou catalane de la ville. Et puis, et puis, je suis revenu, j'ai terminé et j'ai été à Londres travailler chez David Chipperfield dans son agence londonienne, qui travaillait sur un certain nombre de projets de par le monde, assez peu au Royaume-Uni, mais énormément à l'étranger. Et donc c'est au contact de David lui-même, de ses directeurs, et puis de mes collègues qui venaient d'un peu partout, que les choses se sont un petit peu plus affermies. En tout cas, moi, mes convictions architecturales, voilà, une certaine rigueur, une certaine envie d'avoir des bâtiments qui soient réversibles, quelque chose d'atemporel, une vision de la ville et de son échelle aussi, une vision assez tactile et robuste mais tactile de la construction à proprement parler, bref.
Une élégance aussi.
Une élégance, évidemment, une esthétique, ouais. Ouais, donc ça m'a appris énormément. Et donc quand j'en suis parti, parce que je me faisais quand même bien presser le citron
classique dans ces grosses machines,
c'est ça, quand je suis revenu, enfin je savais qu'il fallait que de toute façon je monte assez vite mon agence, et on avait travaillé ensemble sur des projets de campus notamment aux États-Unis avec David, et donc j'ai eu un coup de fil de d'HEC qui m'a dit qu'il y a un concours qui allait être lancé. Ce sujet, que je l'ai rappelé, je lui ai dit, tiens, est-ce que ça te dit qu'on fasse équipe ensemble ? Ce qu'on a fait, on a été retenus, et puis on a gagné le concours. Enfin, je suis reparti à Londres, on a fait le concours ensemble, on a gagné. Donc, c'était parti.
C'est pas mal.
C'était pas mal.
Pour commencer.
Mais ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, ça s'est dédoublé par un autre concours public que j'ai gagné là, dans le Sud-Ouest. Et donc, tout de suite, j'ai été amené à travailler à la fois sur un projet équipement public que je menais dans le Sud-Ouest, et à la fois cette grande extension d'HEC avec un architecte hyper connu, et puis moi en première ligne. Voilà, c'était un peu le baptême du feu, pas évident.
Vous avez encore souffert?
J'ai beaucoup souffert. Ouais, ouais. Non, j'y allais. C'était vraiment. C'était coton. Et je pense que quand on a vécu ça, parce qu'en fait, la maîtrise d'ouvrage n'était pas l'exploitant. Enfin, en gros, c'était pas HEC qui était la maîtrise d'ouvrage, c'était la chambre de commerce et d'industrie. Et qu'il y a forcément des dissensions entre ceux qui ont des besoins et ceux qui financent ces besoins. Et voilà. Et comme moi, j'étais un ancien HEC.
Oui, vous étiez plutôt impliqué auprès de votre appartenance.
Voilà, donc j'étais pris entre le marteau et l'enclume, et c'était
sportif.
C'était sportif. Voilà.
Ouais. Ben, bravo. Je voulais revenir à la terre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller en Afrique et d'explorer la construction en terre? Parce qu'à l'époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Alors moi, il faut savoir que à 15 ans, avant de partir aux États-Unis, j'étais donc dans une école jésuite à Bordeaux, et on m'avait proposé d'aller construire une école en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc j'avais 14-15 ans et j'y suis allé, et à ma grande sidération, on a construit une école selon les plans des écoles françaises des années 60, donc avec exactement les mêmes modes constructifs, donc des parpaings, des portes et des fenêtres en acier, voire en aluminium, enfin bref, et on voyait très bien que ces constructions-là n'étaient jamais maintenues, parce que elles faisaient appel à des matériaux qu'on devait importer et qui n'étaient absolument pas adaptés ni au climat, ni à ceux qui le mettaient en place, etc. Donc on a construit cette... Voilà, moi j'étais là comme main-d'œuvre, hein, quasiment, donc on a construit cette école, et je voyais tout autour ces constructions fantastiques, ces maisons, voilà, qui étaient faites en terre crue, et donc ça m'avait fasciné. Et je m'étais dit, tiens, il faut que j'aille chercher un petit peu ce qu'il en est et explorer tout cela. Ma mère, elle est née aussi en Afrique, hein, au Congo belge. Donc j'ai tout cet imaginaire familial africain qui est passé
qui
par, mes
véhiculé aussi.
Exactement, par mes grands-parents, etc. Et donc, ça me tenait à cœur que d'y revenir. J'ai contacté une association qui venait d'être montée, qui était de l'école d'architecture de Paris-Lavillette, qui menait des chantiers en formant des locaux, des Touaregs en l'occurrence, donc du nord du Niger, à cette technique de la voûte nubienne, qui est en fait une technique qui vient donc du sud de l'Égypte, technique millénaire, et qui permet d'édifier des bâtiments sans avoir besoin de bois, ni en charpente, ni même en échafaudage. Et donc avec le simple outil du moule
et un savoir-faire,
on arrive à faire des bâtiments qui sont extrêmement pertinents d'un point de vue climatique dans le désert où il fait 50 degrés la journée et parfois zéro la nuit. Eh bien, vous arrivez à réguler la température intérieure de manière exceptionnelle avec des murs très épais, avec un argile qui vient localement, qui est sourcé à 20 mètres de là où vous construisez la maison ou l'école ou la banque céréalière, avec des voûtes et des coupoles. On a fait ça, on a réitéré ce chantier de 2-3 mois, plusieurs années d'affilée, jusqu'à ce qu'on ait des problèmes avec l'arrivée d'ACMI, donc Al-Qaïda qui débarquait par le nord, par le désert, où là on a dû, pour des raisons sécuritaires, ne plus y revenir depuis, voilà.
Ouais, bon, alors aujourd'hui vous avez une agence et vous construisez pas mal. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Ben non, sinon j'arrêterais. Non, non, évidemment pas.
Non, mais bon, après ça peut devenir... On peut être dans une dimension encore au-dessus.
Ouais, c'est ça, et puis une dimension au-dessus, puis il y a... Je dirais qu'il y a, la croissance n'est pas qu'une croissance quantitative, elle est aussi qualitative. Et on est évidemment attiré par toujours le fait de faire mieux pour nous, mais aussi surtout pour les autres, pour la ville, pour l'environnement. Et je crois qu'on a le chemin est encore énorme à accomplir pour l'ensemble des acteurs de la ville. Alors évidemment, j'ai réalisé des choses que je n'avais peut-être même pas imaginées, mais je pense que j'ai jamais vraiment fonctionné en me disant tiens, il faut que j'ai ci ou ça.
Oui, dans le calcul.
Oui, exactement.
Vous avez pris les choses comme elles venaient.
Voilà, tout à fait. Je pense être à la fois ambitieux, suivre aussi ce qui nous plaît au jour le jour et puis tenter. La devise d'HEC, c'est apprendre à oser. Donc je pense que j'aurais été raisonnable. Je n'aurais jamais osé gagner le premier concours que j'ai fait avec David Chipperfield, ce qui m'a mis dans l'embarras immédiatement. Mais en même temps, c'est grâce à ça aussi qu'on grandit et qu'on évolue. Et que voilà, c'est en se mettant dans des situations parfois un peu bancales.
Périlleuses.
Ouais, tout à fait.
Alors, on a parlé de vous. Maintenant, pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos projets ? Peut-être vous appuyer sur vos projets emblématiques ?
Oui, l'histoire de mes projets. Alors, j'ai parlé déjà d'HEC, HEC 1, HEC 2, qui était la réhabilitation de l'ensemble du parc de logements que l'on a mené en suivant, quasiment. Hein. Donc, on s'est occupé de l'ensemble des bâtiments modernistes de résidence du campus. Ça a été aussi une très belle aventure.
D'ailleurs, il y a
aventure.
L'amphithéâtre a brûlé il n'y a pas longtemps.
Tout à fait. Et puis HEC 3, ma troisième partie de mon action sur le campus a été de définir un plan guide sur l'ensemble des 130 hectares du campus. Donc, c'est marrant toujours de revenir sur les pas de ces études et de ces expériences étudiante ou étudiantine parce que bah voilà on connaît très très bien le site et en même temps il faut qu'on arrive à s'en détacher pour pouvoir réussir à projeter autre chose. Donc ça, je pense que ça a été vraiment fondateur. Après j'ai été aussi dans les pas de cet architecte qui a réalisé dans les années 60 le campus HEC qui s'appelle René Coulon et qui a réalisé un deuxième campus. Il en a pas réalisé 50, hein, il en a fait deux dans sa vie, HEC et l'Université de Bordeaux de sciences et technologies. Et ben c'est marrant parce que j'ai réhabilité...
La boucle était bouclée.
Aussi, voilà, c'est ça, le bâtiment, les bâtiments de sciences et technologies, où là, c'était un autre contexte avec une entreprise, une major de la construction qui était mandataire. Hein, c'était un conception-réalisation-maintenance. Et puis un duo architectural un peu intergénérationnel, comme on dit, avec Paul Chemetov qui s'occupait de la partie Est et nous qui nous occupions de la partie Ouest. Voilà. Et surtout, une très belle rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Franck Boutet.
Qu'on a eu au micro de Comme d'Archi.
Eh ben voilà. Et avec qui, donc grâce à qui, on a réussi à gagner ce concours et à développer un projet qui était très innovant, même d'un point de vue mondial, sur de l'existant, moderniste, qu'on arrive à transformer sans y ajouter d'isolant, en utilisant l'air comme isolant, en fait, et à mettre en vitrine et en valeur cette architecture pérétienne, cette architecture moderniste des années 50-60. Voilà, donc ça, c'était un très belle...
Belle réalisation.
Ouais, une belle réalisation. Et puis après, moi, c'est vrai que, vous avez compris, avec mon parcours, je suis très... Enfin, je viens d'une famille qui vient d'un peu partout, et j'ai moi-même toujours...
Vous aimez le voyage.
J'ai, voilà, essayé de travailler dans des climats différents, avec des cultures différentes, et je me sens très à l'aise là-dedans. On a réussi à travailler pas mal en Asie du Sud-Est, et là, d'ailleurs, on a un chantier qui va commencer, qui est une école d'art à Battambang, au Cambodge, qui est en terre crue et en bambou. Et donc ça, c'est une autre aventure, parce que il faut tout faire avec pas simplement des plans et un client, mais aussi des entreprises à qui il faut apprendre, un peu comme ce qu'on avait fait au Niger, qu'il faut apprendre à faire. Et donc on transforme des bétonneux classiques en des terreux innovants.
Mais ce sont des entreprises locales.
C'est des entreprises locales, évidemment. Ouais. Mais à qui il faut peut-être rouvrir les yeux sur des techniques qui étaient localement implantés, mais qui ont disparu depuis déjà quelques décennies.
Et ce projet, il en est où ?
Le chantier doit commencer cette année.
Vous allez être amené à y aller souvent, ou j'imagine qu'il y a un architecte local ?
Alors, moi j'avais quelqu'un là pendant 2 ans qui était là localement, juste à côté au Vietnam. Et donc là, on est en train de voir comment est-ce qu'on organise l'équipe pour pouvoir assurer le suivi. Le but n'est pas de faire des allers-retours en permanence et de cramer du carbone en vol.
Alors, vous avez quand même beaucoup de projets. Je vois une centrale de mobilité sur l'île de Saint-Denis.
Au village olympique, oui.
Un projet sur les bassins à flots à Bordeaux. Mmh. On retrouve quand même une écriture architecturale avec un rapport à la lumière, au plein, au vide.
Ouais, une certaine évidence. Nous, on aime beaucoup travailler sur la structure, sur la réversibilité qu'elle peut offrir dans le temps, la flexibilité, le plan libre. Donc, c'est toujours une approche qu'on essaie de mettre en valeur, que la structure fasse l'architecture. Alors, certes, ce sont des bâtiments qui sont en béton, donc on peut dire oui, c'est très carboné, c'est ce qui est le cas. En même temps, on utilise le béton. Juste là où il le faut et le moins possible. Et après, évidemment, on intervient dans un contexte, un contexte budgétaire, un contexte législatif aussi, qui fait qu'on n'est pas toujours à pousser tous les curseurs au maximum. L'architecture, c'est aussi un art de l'engagement, mais aussi un art du compromis et de la contrainte. Je pense que c'est ça, architecture-structure, c'est quelque chose qu'on aime bien faire.
Ouais. Justement, cette centrale de mobilité à Saint-Denis un petit peu l'illustration de ça. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'une centrale de mobilité ? C'est un parking, finalement, où on met tout type de véhicules ?
Tout type de véhicules, tout type de mobilité, y compris de la logistique. Donc, en fait, c'est le pendant du quartier qui, lui, est piéton et qui n'a pas de voirie interne. Donc, l'idée de pouvoir rassembler l'ensemble des mobilités dans ce bâtiment, qui est en R+7, et qui est un peu la lanterne du quartier, puisqu'on le voit très bien depuis la 86, enfin, c'est face à un parc. Donc, on assume ce côté serviciel pour l'ensemble du quartier. Et donc, on y rentre à la fois pour garer sa voiture, garer son vélo ou son cargo, mais aussi pour bien récupérer ses denrées, un certain nombre de places qui sont réservées à des fourgonnettes, à des camions, des camionnettes. Puis il y a un système de petites voitures électriques type voiture de golf qui vont permettre à ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec leur cargo pour pouvoir se livrer jusqu'en bas de chez eux. Et donc tout ça, c'est géré par la ville et par le quartier.
D'accord. Alors, c'est un bâtiment qui est assez beau.
Merci.
Un beau parking. C'est le premier qu'on construit en France. Bon, j'exagère, mais bon, c'est bien rare. Ouais. Il a fallu convaincre.
Oui, sachant qu'en plus, le but initial, c'était de le faire en bois. Et en réalité, en bois, c'est très, très compliqué. C'est très onéreux.
Si vous vouliez, c'est la structure apparente, oui.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et que l'élasticité prix, là, sur le budget, elle était très faible. On a pris, nous, le parti de se dire, on en met le moins possible, juste là où il faut. Et c'est cette structure qui fait l'ensemble de notre architecture.
Vous aimeriez évoquer un autre projet, peut-être ?
Oui, évidemment. Moi, les projets en ce moment qui me meuvent le plus sont ceux qui ont le plus d'impact. Et c'est vrai que quand on parle de pays qui sont largement chahutés, bouleversés, ces projets ukrainiens.
Parce que vous construisez là-bas ?
Parce qu'on construit là-bas et qu'on reconstruit, qu'on protège. Donc, c'est en fait des dimensions différentes que je découvre aussi du métier d'architecte et qui sont tout autant importantes, voire même encore plus. On revient un peu au sens initial de l'architecture, qui est quand même de protéger les corps et les esprits, et de véhiculer une culture, de véhiculer le lien qui est tissé entre les hommes et leur géographie, leur paysage, leur ville, leur mémoire. Voilà. Donc c'est un peu l'ensemble de ces projets-là, je pourrais en citer évidemment quelques-uns. Mais...
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller là-bas ? C'est... Le point de départ, c'est la guerre ou vous aviez déjà des attaches ?
Moi, j'étais déjà là-bas depuis 8-9 ans. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont notamment partis sur le front. Des gens qui sont lettrés, qui sont éduqués, qui sont pas du tout va-t-en-guerre ni quoi que ce soit, mais qui défendent leur pays, les valeurs pour lesquelles ils se sont déjà battus en 2014. C'est marrant de voir que c'est toute une génération, enfin pas marrant, c'est pas le terme, mais c'est intéressant de voir que c'est toute une génération de gens qui se sont battus pour sortir du joug dictatorial, de corruption, de mafieux, etc.
On entend souvent, enfin d'un côté, oui, bon, la Russie, voilà, Poutine, hein, et l'Ukraine, ils sont tous corrompus. Alors, c'est des raccourcis un peu durs à entendre.
En fait, c'est-à-dire que l'Ukraine et la Russie ont un point de départ en 1991 qui est à peu près le même. C'est-à-dire que c'est à la fois autant corrompu, après ça va être pris par des oligarques qui vont se servir dans les caisses du pays. Et donc, on a des inégalités qui vont grandissant dans les années 90, un certain chaos. Et puis, une relation malsaine de vassalité Kiev par rapport à Moscou. Avec des pantins que l'on met au pouvoir. À partir de 2002, ça commence à changer. L'envie de reprendre leur destin en main et de voir une véritable démocratie émerger arrive vraiment à prendre corps à partir de 2002. Et parallèlement à cela, vous avez Poutine qui arrive au pouvoir à Moscou et qui, lui, va être une espèce de contre-courant totalitaire, fasciste, etc., qui va vouloir pilonner...
C'est l'avatar du tsar.
Voilà.
En plus, ça rime.
Ouais, exactement. En Géorgie et puis après en Ukraine. Et donc, la génération, moi, que je connais et qui s'est battue en 2014, qui s'est fait tirer dessus par ses propres forces de l'ordre, c'est que vous aviez quand même l'armée ukrainienne qui était donc au service de Moscou, qui a tiré sur les manifestants. Et moi, j'ai des copains qui peuvent vous raconter ça tout à fait en détail. Et qui aujourd'hui est sur le front. Voilà. Donc c'est la deuxième fois, c'est la deuxième, le deuxième acte de cette volonté de s'émanciper de cette force fasciste russe. Voilà.
Quel merdier. Excusez-moi.
Bah ouais, c'est sûr.
Et là, je m'autorise. Je crois que c'est la première fois que je dis un tel mot au micro, mais ouais.
Voilà. Et nous on regarde ça de loin en se disant qu'on on ne sera pas inquiété et que, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer des armes et du soutien à nos frères ukrainiens ? Bon, quand j'entends ça, moi, ça me rend fou.
Oui, mais vous connaissez ça de l'intérieur.
Bien sûr.
Puis vous y mettez de l'affect, forcément.
Voilà, évidemment. Évidemment. Ouais, ouais. Et puis c'est une guerre qui nous est commune parce que je pense que la volonté de déstabilisation de Poutine et de son régime ne s'arrête évidemment pas aux frontières de l'Ukraine et on le voit bien... sur le niveau informationnel, sur les médias, sur les attaques, cyberattaques, etc. Ouais. Enfin, tout ça prend forme.
Et puis, moi, ça me rappelle mes cours d'histoire quand on apprenait que la Pologne était attaquée autrefois et que personne n'avait vu ça venir. Mmh. On se dit qu'il faut le garder en tête. Mmh. On comprend aussi qu'en ce moment, c'est déjà tellement compliqué à l'intérieur que le commun des mortels a du mal à entendre.
Ouais, tout à fait. Et quand vous me dites que c'est tellement compliqué, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que c'est vrai que quand on revient d'Ukraine, on se dit mais qu'est-ce qu'on a de la chance en France d'être dans un pays comme le nôtre, oui, où il y a une éducation, il y a la paix, il y a la sécurité.
Oui, mais justement, on a envie de le maintenir.
Bien sûr.
Il faut, on est quand même aujourd'hui à l'intérieur obligé quand même de se de résister quelque part pour maintenir tout ça.
Évidemment, il y a des combats aussi qui sont tout à fait nobles pour les mener. Ouais, ouais, c'est certain. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation où tout risque de complètement basculer, comme ça peut être le cas à l'est de l'Europe. Mais bon.
Oui, bien sûr. Je me rappelle quand Nicolas est venu, il était très ému. Il me disait, elles sont parties. Enfin, il parlait de jeunes filles qui étaient architectes, reparties
les garçons,
là-bas.
Les étudiants n'ont pas le droit de sortir, donc en effet, on a eu
des jeunes filles.
Jeunes filles, ouais.
Et il était vraiment ému de les voir repartir là-bas avec tout le risque que ça comporte.
Bien sûr.
Et vous, ça vous bravez ce risque ?
Ah bah oui, moi je brave ce risque. Là, la semaine dernière, par exemple, j'étais donc avec l'UNESCO dans la ville de Tchernihiv, qui est à 70 km de la frontière, donc on a... je crois, 45 secondes, 50 secondes pour aller se mettre dans les abris. Et il y a eu des pluies incessantes de centaines de drones, soit de missiles qui ont été envoyés depuis la Russie et qui, en fait, passaient par le couloir de Tchernihiv pour aller atteindre Kiev. Donc la sirène sonnait toutes les nuits et on était censé descendre... en permanence, donc on sort de ces semaines-là vraiment
éreintés,
quoi. Ouais. Et on se dit que les gens qui sont vraiment sérieux et qui descendent tous les soirs parce qu'il y a une sirène dans les abris, bah à force ça use.
Bien sûr.
Et voilà, donc ça marque. Bon.
De toute façon, il y aura bien un dénouement. On n'en voit pas trop la fin, et donc l'architecture pour vous est un vecteur pour les soutenir.
Voilà, tout à fait. C'est un vecteur de continuité, parce que c'est un vecteur historique, c'est un vecteur culturel de leur identité, et y compris par rapport à des traces du passé qui ne sont pas sympathiques, qui ne sont pas forcément agréables. Il y a des débats très engagés, très intéressants sur, par exemple, le patrimoine soviétique, parce qu'il y a la grande politique de la décommunisation, enfin bref, de se détacher du communisme soviétique. Donc, ce qui va avoir lieu, ce qui va principalement avoir attrait aux symboles et aux monuments dédiés, je sais pas, à Lénine, etc. Mais si forcément,
il faut aussi garder cette mémoire.
Voilà, à l'architecture. Ouais. Comment est-ce qu'on la regarde? Comment est-ce qu'on arrive à la à faire le tri là-dedans, à conserver des bâtiments, tout en enlevant peut-être un certain nombre de symboles, ok.
Parce que j'imagine qu'ils peuvent plus les blairer, mais en même temps, pour en parler très crûment.
Ouais, non, mais c'est compliqué de faire des généralités, mais il y a un certain effet rejet par rapport à cette période-là et qui est accentué par la guerre, forcément. Et quand on voit que de l'autre côté de la frontière en Russie, ils sont là avec leur petit drapeau soviétique, bon, ça, on a tout compris, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, en même temps.
Reconstitution du bloc, reconstitution de l'empire soviétique et fortiori, les Ukrainiens, ça fait 350 ans qu'ils essaient de se défaire du joug russe, et ce n'est pas parce qu'il y a les États-Unis qui les soutiennent que c'est une guerre américaine. C'est au contraire, c'est un souhait ukrainien qui est permis par un soutien occidental par rapport à ce que représente aussi la Russie, ses valeurs, son fascisme, l'assinant, ces zombies que sont devenus beaucoup de Russes, et ce côté très agressif, très belliqueux qu'ils entretiennent dans les écoles, qu'ils entretiennent dans la culture, qu'ils entretiennent.
Ouais. Ça m'émeut toujours parce qu'il arrive que l'Ukraine et la Russie nous écoutent en même temps.
Mm-hmm.
Et je me dis, peut-être que j'espère que certains Russes vous entendront.
Ben bien sûr, moi j'ai aussi des amis russes.
Bien sûr.
C'est encore une fois, c'est pas une question de nationalité, c'est une question d'individualité et de culture, voilà, tout simplement.
On sait plus quoi dire après ça.
Ah ouais, c'est ça. Sans transition aucune.
Bon, alors justement, vous avez votre équipe, vous n'avez pas de personnel en Ukraine.
Si.
Ah si.
Oui, j'ai 10 personnes qui travaillent qui sont des Ukrainiens. Mmh. En fait, moi, j'ai enseigné pendant pas mal de temps là-bas, surtout au travers de workshops ou de conférences, de masterclass. Voilà. Et donc, quand la guerre a sonné, enfin la grande invasion a sonné, j'ai tout de suite rassemblé ou contacté un certain nombre de mes anciens élèves ou des personnes que je connaissais. Et donc, on a constitué un groupe que j'ai fini par salarier. Et on s'est occupé d'abord du patrimoine ukrainien qui partait en fumée. On a constitué des cartes, on a essayé de collecter des informations. On avait des correspondants dans plusieurs villes et qui nous donnaient au jour le jour les informations sur ces bâtiments patrimoniaux ukrainiens qui partaient en fumée. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde s'occupait, c'était tout à fait normal, de l'urgence humanitaire. Mais derrière, il y avait une culture qui était systématiquement pilonnée, des musées, des bâtiments emblématiques.
C'est bizarre parce qu'ils se revendiquent, justement, ils disent que c'est le berceau de la Russie, enfin, le point de départ de la Russie, en même temps, ils pilonnent l'histoire.
Mais oui.
C'est contradictoire.
Ouais, c'est complètement contradictoire, mais ils n'en sont pas une contradiction près.
Oui, c'est vrai. Hein, il y a pire d'ailleurs dans leur contradiction.
Voilà, c'est ça. Ils ont bien dit que sur la liste noire des personnes qui étaient assassinées le plus rapidement possible, il y avait le ministre de la Culture.
Ah
ouais, bah, il est très dangereux, le ministre de la Culture ukrainien, extrêmement dangereux. Il prétend que l'Ukraine existe. Et sa culture, oula.
Oui, voilà. Mon Dieu.
Ouais. Mm. Donc voilà, moi j'ai 10 personnes là-bas, et c'est vraiment très important pour moi de dire aux Ukrainiens, on vous aide, moi j'amène mon expertise, ma vision, et peut-être des financements, etc. Mais c'est, le job, il est donné, on crée des emplois localement, et on forme aussi des architectes ukrainiens à l'après, à la reconstruction. J'enseigne maintenant un studio donc entièrement à l'école, la Kharkiv School of Architecture, qui est déplacée, qui est à Lviv. Donc on s'investit vraiment dans le futur du pays. Et voilà, et moi, c'est encore une fois, c'est l'impact social ou éducatif, etc., de tout ce que je fais qui va me guider. Hein. C'est ça le plus important.
Quel boulot vous êtes, en France, vous êtes combien?
Et en France, là, on a un peu réduit les effectifs. Il y a une petite crise quand même, accessoirement.
Oui, en ce moment. Oui.
Voilà. Donc, on est 25-30 en France.
Oui, quand même.
Voilà.
Oui. Oui. Vous êtes amené, en tant qu'architecte, à projeter sur un temps long.
Mm-hmm.
Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde très compliqué dans lequel on vit? Et vous, vous êtes encore plus impliqué dans cette complexité en tant que constructeur, que bâtisseur. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au commun des mortels français?
J'aurais envie de dire que le monde change, évidemment, les besoins changent et la culture évolue aussi, le climat s'emballe, et la construction de la ville, c'est une construction lente, c'est une construction de long terme, à la fois parce qu'on ne construit pas des bâtiments pour les démolir 5 ans ou 10 ans plus tard, et en même temps parce qu'aussi on a des processus, notamment en Europe, qui sont beaucoup plus, avec une inertie très forte. Donc il faut qu'on soit dans l'anticipation en permanence de ces futurs besoins qu'on ne connaît pas, de ce climat qui va s'emballer. Bon, là on peut quand même faire des projections, mais bon, plus ou moins. Et puis surtout, on a des moyens limités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait capable, on en parlait hier avec Loïc Chen, directeur de chez Franck Boutet Consultant, on a toutes les technologies pour faire la ville la moins carbonée, la zéro carbone, la plus résiliente possible. Mais évidemment, il faut qu'on en réussisse à embarquer tout le monde avec nous. Et ça, c'est la triangulation, toujours avec le maître d'ouvrage et avec les élus, avec le politique. Mmh.
Hein. Encore une question de culture.
Et voilà, exactement. Mmh. Encore une question de culture et de percevoir cela non pas comme des obligations ou des contraintes, mais au contraire comme une ambition commune qu'on a envie de partager, vers lequel on a envie d'aller. Voilà, donc la transformation de la ville française ou européenne de 2024, il faut qu'elle soit plus forte et il faut qu'elle soit aussi plus partagée.
C'est ça le monde de demain.
C'est ça le monde de demain, ouais, ouais.
Mmh. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui, sachant en plus que vous êtes toujours président d'AEMO, l'association?
Je suis toujours président d'AEMO, encore pour quelques jours en tout cas.
Ah oui,
voilà. Mais on est en train de monter le fonds de dotation, donc la AEMO Foundation, que je vais présider et qui va porter d'autres projets à impact social notamment. Mais qu'est-ce que je donnerais comme conseil aux étudiants? Je leur dirais d'abord de bien apprendre les bases, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, l'architecture, c'est un métier millénaire, c'est un métier qui s'inscrit dans l'histoire, et donc c'est d'abord un métier où l'on construit solidement des choses. Et donc il ne faut pas négliger la technique, la tectonique de ce métier, c'est aussi sa beauté quand on va visiter des chantiers, quand on va voir comment les maçons travaillent, comment un tailleur de pierre travaille, comment un charpentier travaille. Ça, c'est vraiment la base, et je crois que c'est quand on a cet amour-là du Lego, de la mise en place, on sait ce qu'on construit et on le maîtrise. Et c'est quand même le savoir-faire numéro un. Avant de vouloir devenir Jean Nouvel, il faut déjà maîtriser cette base-là. Et ce que je trouve souvent, c'est qu'on ne la maîtrise pas assez et on se décrédibilise en voulant tenter des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis après, évidemment, il faut oser, il faut se donner, il faut créer, il faut s'inspirer, il faut être curieux. C'est peut-être ça aussi qui nous permet de continuer à être jeunes, c'est cette curiosité incessante. Et ça, c'est le deuxième fuel de l'architecte, c'est d'être curieux de ce qui va venir prochainement.
Alors, qui dit plus réhabilité, parce que c'est vrai qu'on détruisait beaucoup, ne dit pas oublier de construire, et on va toujours construire.
On va toujours
construire. C'est une obligation.
Évidemment. Alors évidemment, on va aussi et beaucoup réhabiliter, mais en fait, ce que je disais sur le fait de comprendre la tectonique d'un bâtiment sert évidemment pour construire, mais sert aussi pour le réhabiliter.
Bien sûr.
Là, moi, je
faut comprendre ce à quoi on touche.
Le studio qu'on mène à l'école de Kharkiv, c'est sur le patrimoine industriel de ukrainien. Donc c'est exactement, on apprend aux étudiants à comprendre comment un bâtiment est construit, comment est-ce qu'on peut le modifier, quelles sont les incidences techniques, qu'est-ce qu'il peut porter, quels sont ses points forts, ses points faibles. Enfin bref, tout cela, c'est le même logiciel, simplement il est positionné à un autre moment de la construction du bâtiment, mais l'exercice est finalement un peu le même.
Et puis, il y a autre chose aussi, je pense, dans votre parcours qui pourrait être intéressant d'évoquer pour les étudiants, c'est l'histoire du voyage.
Mm-hmm.
Je pense que quand on est un architecte, un jeune architecte, c'est important de voyager, malgré l'empreinte carbone, parce que c'est tellement de ressources après que... on n'en a que du bénéfice.
Bien sûr, et puis on peut voyager à vélo, on peut voyager en train, on peut voyager... Il y a plein de choses à voir, ne serait-ce qu'en Europe. On est quand même dans un continent qui a énormément d'histoire et donc de choses à aller découvrir, d'architecture vernaculaire très variée. Moi, je suis ébahi par exemple, les constructions en bois et en terre qu'on trouve en Ukraine. Des bâtiments entiers qui sont sur plusieurs étages, qui sont faits sans clous, sans un seul morceau de métallerie, de serrurerie. Donc il y a des arts que les Européens ont développés qui sont fantastiques et qui doivent pouvoir nous inspirer pour le futur. Et donc on n'est pas obligé forcément de faire à chaque fois 10 000 km, trouver cet exotisme.
On espère que l'avion aussi évolue, la technologie.
Évidemment, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais ça, j'espère que ça viendra. Ouais.
Un mot de la fin?
Alors, un mot de la fin, c'est un mot un peu peut-être combatif, parce que certains disent que l'architecture est un sport de combat. Je disais que l'architecture est aussi un art du consensus et donc peut-être aussi de la diplomatie. Après, ce que je vis depuis ces deux dernières années, où le combat et la diplomatie ou le consensus doivent coexister. Je dirais qu'il faut que le premier de nos combats soit celui de l'art du collectif, de l'art de vivre ensemble, parce que l'architecture, c'est d'abord mettre un toit sur une vie en commun. Nous sommes des animaux sociaux et la gastronomie, si je peux reboucler sur la première question, en est un des... la cuisine, le foyer, en est un des espaces les plus emblématiques. Donc battons-nous pour cela, battons-nous pour continuer à faire en sorte que, malgré la digitalisation, malgré les médias, malgré tous les écrans qui nous submergent, bien on ait des espaces qui sensibles, qui nous meuvent et qui fassent en sorte qu'on ait envie de se retrouver, et envie d'échanger, et envie de vivre ensemble.
Voilà. C'est un beau mot de la fin. qui va traverser le monde, parce qu'on est écouté régulièrement dans une vingtaine de pays, et en tout, on a été écouté dans 120 pays.
Bravo.
Donc, que tout le monde vous entende. Merci beaucoup, Martin.
Merci, Anne-Charlotte.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.